Radio Prague, les informations.
Bonjour, le taux de chômage en République tchèque en 2013 a été le quatrième le plus faible au sein de l'Union européenne. Le président Zeman s'est prononcé en faveur de la poursuite des échanges commerciaux avec la Russie. Et puis enfin en sport, en cyclisme, vainqueur de la deuxième étape, le tchèque Petr Vakoš a endossé le maillot de leader du Tour de Pologne. Le taux de chômage en République tchèque a été le quatrième le plus faible au sein de l'Union européenne en 2013. Fin décembre, la République tchèque présentait un taux harmonisé de 6,7% et se classait derrière les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Autriche. Le taux moyen pour l'ensemble des 28 s'est élevé à 10,6%, la Grèce et l'Espagne figurant tout en bas du classement avec respectivement 27 et 25% de la population active sans emploi. Les chiffres obtenus sur la base de l'enquête intitulée « Force de travail » réalisée par chaque État membre ont été présentés ce lundi par l'Office tchèque des statistiques. Le président de la République est favorable à la poursuite des échanges commerciaux avec la Russie, comme l'a fait savoir son porte-parole ce lundi. Miloš Zeman apprécie les efforts mis en œuvre par le Premier ministre Borislav Sobotka pour ne pas interrompre les échanges avec Moscou. Le chef de l'État estime que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne sera que de courte ou de moyenne durée et c'est pourquoi ce serait selon lui, je cite, « une erreur de mettre un terme à des relations économiques en plein essor ces dernières années ». Cette déclaration intervient peu de temps après la décision de l'Union européenne et des États-Unis de durcir les sanctions infligées à la Russie en raison de son rôle déstabilisateur dans l'est de l'Ukraine. En réaction, le chef du gouvernement tchèque, qui s'est prononcé en faveur de ces sanctions, a déclaré qu'il était bien que celles-ci ne touchent qu'un cercle restreint de domaines et n'aient pas un caractère économique plus général. La terre a de nouveau tremblé dans la nuit de dimanche à lundi dans la région de Cheb, dans l'ouest de la Bohême, avec un séisme de magnitude de plus de 3,5 degrés sur l'échelle de Richter, selon les premières données. D'après la carte de l'Institut tchèque de géophysique, l'épicentre était situé en Allemagne, près de la frontière germano-tchèque, où une magnitude 4,2 a été enregistrée. Aucune victime n'a été signalée. La région est régulièrement secouée. Un séisme à la fin du mois de mai a atteint 4,5 degrés sur l'échelle de Richter. On passe au sport et tout d'abord au football. Le Viktoria Plzeň a battu Jablonec 3 buts à 1 dimanche soir devant son public à l'occasion de l'avant-dernier match comptant pour la deuxième journée du championnat de République tchèque. Cette victoire permet au club de Bohême de l'Ouest, sacré champion en 2011 et 2013 et deuxième la saison dernière, de revenir à 2 points du duo de tête composé du Sparta et du Slavia Prague, respectivement victorieux de Irlava 3-0 et du Baník Ostrava 3-1. Les deux grands clubs de la capitale sont les seules équipes ayant remporté leurs 2 premiers matchs. Adversaire de Lyon au 3e tour préliminaire de la Ligue Europa, Mladá Boleslav a été défait pour sa part à domicile par le 3e club de Prague, le Dukla, 1-0. A noter que le but de la victoire a été inscrit par l'avant-centre français Jean-David Bogel. Et puis en cyclisme, Petr Vakoš a créé la surprise en remportant ce mardi à Varsovie la 2e étape du Tour de Pologne, longue de 226 km. Le coureur tchèque de l'équipe belge Omega Pharma Quick-Step s'est imposé en solitaire avec 21 secondes d'avance sur le peloton, signant ainsi à 22 ans la plus belle victoire de sa carrière. Ce succès lui permet de prendre le maillot de leader du classement général avant une 3e étape de 174 km ce mardi, qui sera de nouveau réservé aux sprinteurs. On termine comme toujours avec un mot de météo. C'est un temps couvert qui continue de régner sur une grande partie du territoire ce mardi, jour de la fête des Christianes. Des averses plus ou moins abondantes sont attendues un peu partout. Des orages restent également possibles dans l'est du pays. Quant aux températures, elles varient entre 22 et 26 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute et merci à Guillaume Narguet pour ce bulletin. Guillaume, de retour de vacances, bronzé et avec le sourire. Aujourd'hui, musique classique et canasson au programme. de la musique ancienne avec les célébrations d'été de la musique ancienne à Prague. Dans l'épisode du jour ensuite de notre série d'été, eh bien nous parlerons du Kladruber, cette race de cheval tchèque à la réputation internationale. La 15e édition du Festival de la musique ancienne est sur le point de se terminer. Mercredi, le dernier concert sera consacré à un projet franco-tchèque portant le titre « Grâce et Majesté ». L'ensemble tchèque Collegium Marianum accompagnera le baryton français Alain Buet et la mezzo-soprano française Isabelle Druet. Au programme, l'apogée de la musique baroque centre-européenne et des pièces de Jean-Philippe Rameau, dont l'année 2014 marque le 250e anniversaire de la mort. Lucie Drexelova pour plus d'infos.
La programmation du dernier concert du festival pose un objectif ambitieux. D'une part, il s'agit d'abord de proposer des auteurs centre-européens, l'Autrichien Josef Fuchs, l'Allemand Johann Kaspar Fischer et le Tchèque Josef Dismas Zelenka, tous trois compositeurs de la cérémonie du couronnement du roi de Bohême, Charles VI, en 1723. Dans la seconde partie du concert, le public entendra l'œuvre du français Jean-Philippe Rameau, le baryton Alain Buet, soliste et pédagogue. Son répertoire englobe les 16e et 20e siècles et pour lui, les deux parties du concert se complètent bien.
C'est intéressant d'avoir les deux parties du programme, voir un peu les styles. Ça permet de comparer aussi un peu les styles d'écriture. Et puis pour nous, de découvrir, parce que je n'ai jamais chanté une seule note de Fuchs, donc ce sera une première pour moi. Et c'est très beau, ça fait penser un peu à Handel, Scarlatti, ça pourrait aller vers Haydn aussi. Et puis Zelenka, moi je suis fan, j'ai déjà chanté des Lamentations de Zelenka.
Isabelle Druet est mezzo-soprano avec un parcours peu ordinaire dans le monde de l'opéra et de la musique classique car elle a commencé par le théâtre et la musique plus moderne. Les deux interprètes sont pour la première fois à Prague, mais ils ont déjà coopéré plusieurs fois ensemble. Récemment, ils se sont retrouvés dans un opéra d'André Campra, Tancrède, joué à Avignon et à Versailles. Par rapport à sa découverte de la musique centre-européenne, Isabelle Druet remarque.
Zelenka, j'en ai peu chanté, mais j'en ai entendu en fait. Ça fait partie des œuvres, le Miserere, des œuvres comme ça qui m'ont vraiment touchée et qui m'ont donné envie de chanter cette musique. Et Fuchs, par contre, c'est un compositeur que je ne connaissais pas, qui est très... La moellère que j'ai à chanter est très beau. Voilà, c'est un petit peu, on sent qu'il y a une influence très forte et à la fois des musiques, de la musique française. Et puis, dans cette période classique, on sent qu'il voyageait beaucoup, qu'il y a un petit peu ce phénomène des cours princières qui font que les musiciens aussi voyagent et entendent, s'influencent.
Pour Alain Buet, Jean-Philippe Rameau représente l'apogée du baroque, mais il s'agit également d'un grand novateur, ce que confirme Isabelle Druet.
Il y a aussi ce rapport avec Rameau que j'ai pas énormément chanté. J'ai fait beaucoup plus de Lully, de Campra, de Destouches, enfin, il y a d'autres compositeurs. Rameau est un peu plus tardif. Et lui, il commence déjà vraiment au niveau des voix, par exemple, à faire une classification. Il y a vraiment les airs, les personnages avec des voix aiguës. Il commence à y avoir un peu des fossés entre les différents rôles. Donc c'était aussi intéressant de se pencher là-dessus et de voir avec Jana quel rôle moi je pouvais chanter là-dedans, sachant que je suis mezzo-soprano. Donc il va falloir prendre les airs dans une tessiture un peu plus grave. On se retrouve avec des personnages un peu plus dramatiques.
Et pour se préparer, les deux interprètes se renseignent sur la pièce, sur l'auteur, ainsi que sur le contexte historique de sa création. Ils s'accordent sur l'importance de la bonne déclamation.
Maintenant, on répète assez peu, pour des raisons souvent économiques. Donc il faut arriver quand même bien préparé. On travaille chez soi, on travaille sur le... Alors pour la musique baroque, disons que les notes ne sont pas très très difficiles à apprendre. C'est la déclamation souvent qui est importante, c'est-à-dire savoir ce qu'on dit, dans quel contexte, et puis comment le dire. C'est un peu comme en chantant, comme écrire le texte, que les gens voient le texte. Aider le public à être plus en intelligence avec l'histoire, le texte, etc.
La salle espagnole du Château de Prague accueille le dernier concert du Festival de la musique ancienne ce mercredi soir.
Radio Prague vous propose cette année une série estivale consacrée à des marques et des produits de République tchèque dont la réputation dépasse les frontières du pays. De l'antivirus Avast au tracteur Zetor, en passant par le Semtex ou le Knedlik, la sélection ne sera sûrement pas exhaustive, elle n'en est pas moins variée. L'épisode du jour nous emmène à une petite centaine de kilomètres de Prague, à Kladruby nad Labem. Cette commune a donné son nom à une race de cheval réputée dans le monde entier, le Kladruber ou vieux Kladruber, en tchèque Starokladrubský kůň. Les Kladruber blancs sont élevés au haras de Kladruby nad Labem sans interruption depuis la fin du XVIe siècle. Les Kladruber noirs ou Kladruber moraux, dans le jargon hippologique, se trouvent au haras de Slatiňany, à une quarantaine de kilomètres vers l'est. Pepoli et Generale pour les Blancs, Sacramoso et Napoléone pour les Noirs, ce sont les étalons qui semblent avoir le plus marqué de leur empreinte génétique cette race aux origines italo-espagnoles. Les haras de Kladruby et de Slatiňany appartiennent à l'État. Ils n'ont d'ailleurs pas été épargnés récemment par des affaires de malversation et de détournement de fonds européens, avec même une grosse descente de police l'année dernière. Mais c'est une autre histoire, car l'histoire, la grande histoire du Kladruber sur le sol tchèque, est un objet de fierté, classé au patrimoine culturel national depuis 1995. Les familles royales danoises et suédoises en ont. On trouve des fans de cette race jusqu'en Californie. Ils sont présents dans les grands moments de l'histoire tchèque. Ce sont six Kladruber moraux qui ont transporté à Prague le cercueil du président Tomáš Masaryk en 1937 et le cercueil également du président Václav Havel en 2011. Et lorsqu'il a été question de choisir un beau cadeau pour le mariage princier britannique de William et Kate, le gouvernement tchèque a décidé de leur offrir Favory Alta 21, un étalon blanc au pedigree irréprochable.
Vláda dnes vyslovila předchozí souhlas k bezúplatnému převodu starokladrubského hřebce Favory Alta.
Bon, c'est vrai, l'étalon évalué à 30 000 euros est finalement resté à Kladruby nad Labem et seul un échantillon avec son patrimoine génétique a été envoyé au duc et à la duchesse de Cambridge. Comme ce n'était pas clair s'il s'agissait de sperme, de salive ou de sang, ce fut au moins l'occasion pour le premier ministre de l'époque, Peter Nečas, de ricaner un peu pendant la conférence de presse.
Tím genetickým materiálem do Velké Británie, čili část tohoto hřebce, bude Británie s předstihem.
Il était encore de bonne humeur, c'était avant les ennuis qui l'ont poussé à démissionner quelques mois plus tard. Il y a aujourd'hui 500 Kladruber dans les haras de Kladruby et Slatiňany et on estime qu'il en existe à peu près un millier en tout dans le monde. Ils ne sont pas seulement utilisés pour les parades des familles au sang bleu, comme à l'origine par les Habsbourg. Certains leur ont même trouvé un nouvel emploi, comme Olivier Lino des services de la ville normande de Trouville l'expliquait au micro de Radio Prague il y a déjà quelques années.
Nous, on s'intéresse beaucoup à eux parce qu'ils ont une race de chevaux, là je lance un appel public, ils ont une race de chevaux qui doit s'appeler le Kladrubský, qui est un cheval mixte, c'est-à-dire qui peut tirer des charges et qui peut être monté, ce qui permettrait aux communes qui utilisent des chevaux comme nous de ne pas les cantonner à des missions techniques de voirie ou d'espace vert, c'est-à-dire seulement à tirer des charrettes ou seulement à tirer des tombereaux. Ils pourraient aussi être montés l'après-midi pour faire des sortes de sentinelles vertes ou des sortes de polices municipales. Il y a beaucoup de polices municipales en France maintenant à cheval. Et on a aussi beaucoup de villes, Trouville est dans ce cas-là, où on a des territoires très vastes qui ne sont pas très habités et dans lesquels on ne va jamais vérifier l'état des clôtures, vérifier les dépôts sauvages, vérifier les affaissements de terrain, vérifier les écoulements d'eau pluviale. Donc on pourrait mixer le travail. Le matin, les chevaux travailleraient avec les services techniques, l'après-midi avec le service ou de l'environnement ou de la police municipale. Et donc on est à la recherche de cette race de Kladrubský.
Où est-ce que vous avez entendu parler de cette race ?
Alors, on en a entendu parler avec un démonstrateur de cascade à Deauville qui est venu nous présenter le film Chevalier, un film dans lequel ils ont utilisé ces chevaux-là car ils étaient puissants, rapides et à la fois très mastoc puisque à l'époque des chevaliers il fallait porter quand même un homme en armure et en même temps être rapide parce que sinon votre vie en dépendait. Et il nous a parlé de cette race, donc de chevaux, on va dire mixtes, et on est à la recherche depuis maintenant un an de ce filon de race qu'on ne retrouve pas forcément aussi facilement qu'on croyait.
Et il semble qu'entre-temps les Français aient trouvé ce qu'ils cherchaient. Selon nos informations, deux chevaux de Kladruby ont été chargés entre autres du ramassage du verre dans cette commune française de Trouville-sur-Mer. suite du programme en français et on passe au sport sur Radio Prague comme tous les débuts de semaine. Rediffusion aujourd'hui d'une émission diffusée en juin 2013 après une course exceptionnelle réunissant l'élite mondiale du VTT à Prague. Parmi les coureurs au départ de la 20e édition du prestigieux Critérium des Marches Pragoises, Marche Pragoise en référence au long escalier qui mène au château dominant la capitale tchèque, eh bien, parmi ces coureurs figuraient les trois derniers champions olympiques de la discipline, parmi lesquels Julien Absalon et Miguel Martinez. Guillaume Narguet avait rencontré les deux Français à l'arrivée de la course.
Sport en République tchèque.
Ça fait 10 ans que j'étais pas venu, puis la dernière participation remonte à 2003, je me rappelais plus que c'était aussi difficile. C'est vrai que c'est un concept unique, une course comme ça en centre-ville, en VTT, mais je me rappelais plus que la côte et les pavés étaient si pentus, donc 2 jours après une Coupe du Monde, c'était vraiment très très dur.
Ces mots sont ceux de Julien Absalon, qu'on ne présente plus aux amateurs de cyclisme et plus spécialement de VTT. Double champion olympique de cross-country en 2004 et 2008, quadruple champion du monde entre 2004 et 2007, 5 fois vainqueur de la Coupe du Monde et 10 fois champion national, le coureur français participait mardi dernier aux Marches Pragoises, Pražské schody, un critérium disputé dans le cadre exceptionnel du château de Prague et de Malastrana, deux des plus beaux quartiers de la capitale tchèque. Une course très spéciale et complètement à part dans le monde, comme en convient Julie Absalon.
Dans une capitale comme ça, rouler en plus dans une ville comme Prague est vraiment, vraiment magnifique, dans ce vieux quartier typique, je crois que c'est totalement unique. Ouais, il y a eu une édition à Paris, à Montmartre, mais qui n'a plus lieu, qui est dans le cadre de l'Hexagonal VTT, l'équivalent du Tour de France VTT. Mais il y a dû y avoir 2 ou 3 éditions. Et depuis, il y a... Donc je pense que c'est bien que cette épreuve perdure, parce que c'est un succès populaire également. C'est vraiment sympa de venir rouler ici, dans une capitale. On a plus l'habitude d'être dans les montagnes, dans les forêts, un peu excentré. Là, on se retrouve au cœur d'une grande ville, avec énormément de spectateurs. C'est vraiment, vraiment super de voir tous ces gens-là. On sent qu'il y a des gens qui sont venus exprès parce que c'est des passionnés, et puis des gens qui se retrouvent là et puis qui découvrent peut-être le VTT, la discipline. Donc je trouve que c'est vraiment super pour notre discipline de venir comme ça dans les grandes villes.
Au-delà du charme incontestable de Prague, l'intérêt de la course repose également sur son parcours. Car entre les 189 marches de l'escalier abrupt du château, la montée à 20% du monticule de Jansky, celle à 12% de moyenne de la rue pavée Nerudova, puis enfin l'arrivée royale sur la place Radchanské, juste devant l'entrée du château, le tracé du critérium, baptisé symboliquement les marches pragoises, n'a rien d'une sinécure.
C'est vraiment, vraiment très très dur, mais un bon entraînement, intervalle training, c'est-à-dire récup en descente dans toute relative, puisque les escaliers permettent quand même pas de récupérer vraiment quand on descend dans les escaliers. Le cœur reste assez haut et dès qu'on arrive en bas, il faut remonter. Donc voilà, c'était en tout cas sympa. Et puis l'organisateur a réussi à réunir un très beau plateau avec énormément de top pilotes. 3 champions olympiques d'ailleurs, voilà, au départ de cette compétition. Donc satisfait par cette 7e place.
Parmi ces 3 champions olympiques figurait donc Julien Absalon, mais aussi bien entendu le Tchèque Jaroslav Kuravi, sacré à Londres l'été dernier et superstar local du VTT, ainsi qu'un autre Français, Miguel Martinez, l'autre chouchou du public pragois. À 37 ans, le champion olympique de Sydney en 2000 effectuait son grand retour à Prague, un retour qui n'est pas anodin et ne passe pas inaperçu.
Bon, en fait, j'ai repris la compétition au niveau depuis le début de saison. J'ai voulu faire du cross-country éliminator et finalement je me suis mis au cross-country normal. Et tout de suite, j'ai remporté la 6 hauteurs classiques en Amérique devant tous les meilleurs. Et ça m'a lancé à vouloir continuer. J'ai gagné la Coupe d'Italie devant Fontana il y a à peu près un mois de là. Et je suis revenu donc à haut niveau en compétition. Et puis donc, qui dit haut niveau, dit revenir aussi à Prague parce que j'ai la condition pour revenir à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'était une course, après 2 jours, il y a 2 jours de la Coupe du Monde, assez difficile, où les gens avaient un peu du mal à répondre. Mais dans l'ensemble, ça reste correct. Quoi. Je suis quand même, quand je vois Kulavi, Absalon, ils sont pas si loin que ça. Et pour moi, pour quelqu'un qui était champion olympique il y a déjà 13 années de là, c'est déjà exceptionnel d'être parmi là, quoi, parmi avec eux, quoi.
Si le retour à la compétition de Miguel Martinez n'enchante pas tout le monde dans le petit monde du vélo, et notamment ceux qui estiment que retrouver le plus haut niveau à son âge n'est pas possible à l'eau claire, à Prague, le Français n'a rien perdu de sa grande popularité, une popularité qu'il doit d'abord à ses 3 victoires dans les marches pragoises au début des années 2000, lorsqu'il était alors au sommet de sa forme, mais pas seulement.
Bah, c'est une course où le public est vraiment énorme. L'ambiance est énorme. Sur le lieu, c'est aussi une course exceptionnelle, quoi, parce que maintenant, je crois que de toutes les courses, c'est une des seules que moi j'ai pu voir aussi belle, vraiment. J'ai pourtant été invité dans le monde entier à faire des belles courses, mais Prague, ça reste pour moi la plus belle, la plus typique depuis plus de 10 ans déjà. Et quand on m'a dit on veut t'inviter encore à revenir ici, bah, j'étais super content, quoi, parce que ça fait déjà depuis 1997 que je viens ici. Et de savoir que j'étais de nouveau invité, et puis continuer à rouler sur ces pavés en descente après déjà ma première participation en 97, donc ça fait déjà plus de 16 ans, c'est beau à voir. Ouais.
Et c'était d'autant plus beau que, même quelque peu lâché dans la seconde moitié de la course, Miguel Martinez a pris son pied dans la première.
Moi, et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est exceptionnel, quoi. Quand je me suis retrouvé avec Koulavi, avec Absalon dans les 4 premiers tours, qu'on était roue dans roue, tous les 3, c'est quand même exceptionnel, quoi, d'avoir 3 champions olympiques comme ça, avec 16 ans d'écart, c'est énorme, quoi. Et rien que ça, pour moi, ça vaut déjà tout l'or du monde.
Mais parler de VTT en République tchèque sans évoquer Jaroslav Koulravi, le grand Jaroslav, comme surnomme Julien Absalon, celui qui lui a succédé au palmarès olympique, ressemblerait fort à un crime de lèse-majesté.
Le grand massif Jaroslav, c'est vrai que c'est impressionnant. Lorsqu'il est en grande forme, c'est vraiment difficile d'aller le battre. On a un peu moins vu l'année dernière, mais il a gagné une seule course, on va dire, mais il a gagné vraiment la bonne, les Jeux Olympiques, celle que tout le monde voulait. Donc un grand coureur, cette année un petit peu en difficulté en ce début de saison. Il n'a pas forcément réussi sa manche de Coupe du Monde dimanche chez lui à Novomesto. Mais je pense qu'il faut qu'il récupère de cet hiver post-olympique à mon avis. Et il sera en forme d'ici quelques semaines, je pense.
Et le public tchèque, amateur de cyclisme et de VTT, espère bien lui aussi revoir à l'œuvre dès l'année prochaine ses 3 champions olympiques, français et tchèques, à Prague et dans les marches de son château.
Merci à Guillaume Narguet, merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. Pour nous retrouver sur internet, vous connaissez déjà l'adresse, c'est www.radio.cz/fr pour accéder directement à nos pages en français. Merci, à très bientôt.